Donc voilà mon parcours. Donc comme je vous disais, moi je viens de cette région, enfin même de ce département, qui a quand même pas mal changé depuis que j'étais jeune. Mais enfin bon, voilà. À votre âge, en seconde, bah, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà des envies? Combien il y en a qui ont des envies plus exactement ou qui se disent déjà... Pas beaucoup. Architecte d'intérieur. Ben, c'est parfait. Alors, toutefois, cette année seconde, pour moi, ça a été absolument déterminant. Parce que nous, on n'étudiait pas la physique et la chimie au collège. On ne faisait absolument pas ça. Et moi, je l'ai découvert effectivement au lycée. Là, à Paris, en fait, au lycée. J'ai changé d'établissement. Et en fait, je n'avais que des professeurs femmes, en maths, en physique, en chimie, en grec, en latin, en français, etc. C'était un lycée de filles, et avant au collège c'était mixte, et puis ce lycée était un lycée de filles, il y avait encore beaucoup de lycées de filles. Et en seconde, j'ai découvert la physique et la chimie, et j'ai découvert les travaux pratiques. Je ne sais pas si vous faites des travaux pratiques
Oui.
dans ces matières. Et ça a été pour moi une révélation, peut-être pas pour vous, parce que vous avez l'impression que ça existe depuis longtemps, moi c'était tout nouveau, donc c'est le côté nouveauté qui peut-être m'a interpellée. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est deux choses, bah, que ça permettait de comprendre notre monde, que donc c'était des matières quand même importantes, parce qu'avec ça, on peut comprendre plein de choses que avant finalement, on vivait ou on subissait sans les comprendre. Mais ce qui m'a le plus convaincu, c'est qu'on pouvait aller, oula, il est sensible, hein, aller à la frontière des connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a interpellée. Je me suis dit, ah, mais si on fait de la recherche dans ces domaines, on peut aller à la frontière des connaissances, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on apprend à l'école, au collège, à l'université, etc. Et ça, vraiment, ça m'a paru extraordinaire. Si je peux faire un métier où on va découvrir des choses nouvelles, bah c'est quand même, je dirais, le plus beau du métier du monde, quoi. Ce que vous apprenez, vous, au lycée, c'est des choses bien établies. Il y a encore plein de questions qu'on se pose. Il y a beaucoup de choses qui sont sans réponse, et quels que soient les domaines. Alors que là, bah, finalement, choisir un métier dans la recherche, c'est... ou dans l'industrie d'ailleurs, parce que des innovations, il n'y en a pas que dans les milieux de recherche fondamentale, bah c'est aller à la frontière des connaissances, essayer de faire avancer les idées, de faire avancer les concepts, de faire avancer les choses pratiques. Et ça m'a déterminé. Donc moi, en seconde, voilà, d'un seul coup, j'ai eu une révélation et je me suis dit, je ferai ça. Et quand on a une conviction, évidemment, ça aide. Mais cette conviction, voilà, elle est tombée sur moi en seconde, peut-être qu'elle va tomber sur vous l'année du terminal, ou un peu plus tard, ou etc., etc. Alors, avec cette idée en tête, j'ai fait des études, en fait, universitaires, et purement universitaires. Et pourquoi ça? Bah, parce que moi, j'ai pas eu le Covid quand j'étais jeune, mais j'ai eu mai 68. Et mai 68, bah, ça a été une année où, en terminale, on s'est arrêté au mois de mars. Au mois de mars, il n'y avait plus de transport, donc impossible d'aller à Paris, hein. D'ici, sans transport, c'est quand même loin. On n'avait pas tous le téléphone, etc., etc. On était complètement isolés et passer le bac, c'était pas sûr. La seule chose que j'avais en poche, c'est que j'étais inscrite en classe préparatoire. Mais je me suis dit, c'est impossible. Comment je vais faire pour aller en classe préparatoire alors que j'ai tout arrêté à partir du mois de mars? Et comme j'étais loin de mes copains et de mes copines, ben voilà, on n'a pas réfléchi collectivement, j'ai réfléchi personnellement. Et puis finalement, on a quand même passé le bac, mais uniquement oral. Et moi, j'étais quelqu'un de très timide, et l'idée de passer oralement toutes les épreuves, ça m'a paru très difficile. Et comme on avait un grand, grand, grand retard en mathématiques, parce qu'on avait un prof qui était vraiment lent, Eh bien, à chaque fois que, vous savez, quand c'est à l'oral, on pioche en général des questions sur un bout de papier. Et à chaque fois qu'on piochait quelque chose, je n'étais pas la seule, c'était « Ah ben madame, je ne l'ai pas fait, ah monsieur, ben non, désolé, je ne l'ai pas fait, etc. etc. » Le prof de maths, il en a eu marre, au bout d'un certain temps, il a dit « Bon, ben vous faites ça, et puis on verra bien. » Donc les mathématiques, je me suis dit « Mais je n'ai pas du tout le niveau. » Il ne faut jamais se dire ça. Il ne faut jamais se dire « Je n'ai pas du tout le niveau. » Moi, je n'avais pas envie de travailler pendant les vacances les maths, et donc du coup, j'ai été à l'université, je n'ai pas fait de classe préparatoire. Je ne l'ai regretté, je vais être précise, je ne l'ai regretté que les deux premières années. Parce que je pense que c'est vrai que faire une classe préparatoire, si vous pouvez la faire, c'est quand même bien parce que ça vous apprend à travailler vite. Et bien. Mais mon professeur de physique, qui pour moi comptait beaucoup évidemment, puisque je voulais faire ça pour mon avenir, m'avait dit, écoute, l'université c'est quand même bien parce que c'est la meilleure façon d'approcher la recherche. Et donc, je me suis dit, bon, ben, l'université. Et donc, toute ma carrière s'est faite en m'appuyant sur l'université, ce qui ne m'a pas empêché, comme vous allez voir, d'avoir une carrière, tout ce qu'il y a de plus réussi. C'est pas toujours facile, mais au moins, c'est vrai que j'ai pu faire des choix à toutes les étapes. Je vous donne un exemple de choix. J'ai donc été à l'université pour faire de la recherche. Il faut quand même faire, comme vous le verrez plus tard, à peu près 5 ans d'études et puis après une thèse, etc. Et quand j'ai été à la fin de mes études, donc après 5 ans après le bac, ce qui est très courant hein, maintenant, 5 ans après le bac, et c'est des études qui coûtent pas cher, ça faut le dire aussi, hein, dans les métiers scientifiques et techniques, contrairement à beaucoup d'autres formations qui sont très chères, eh bien, je me suis dit, mais c'est bizarre. On a fait plein de matières, de mécanique quantique, enfin des choses, bien sûr, élaborées en physique. On n'a pas fait d'informatique. Comment est-ce qu'on peut faire de la recherche sans informatique? Alors, ce que je vous dis là, c'est que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Hein, encore plus vrai aujourd'hui que l'informatique se glisse dans tous les métiers un peu intéressants. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai décidé de faire une, ça s'appelle des unités de valeur, quelque chose de supplémentaire avec de l'informatique. Alors, je ne connaissais rien à l'informatique, et c'est pas indispensable de faire de l'informatique trop tôt. Mais enfin, c'est bien de se rendre compte, qu'on soit fille ou garçon, que l'informatique, c'est simplement un langage. Ça ne vous paraîtrait pas bizarre de dire, oh ben l'anglais c'est pour les garçons, par contre, moi, j'aime bien l'espagnol, c'est pour les filles. Non, ça n'a aucun sens, ça. L'informatique, c'est un langage. Ou des langages différents. Donc j'ai trouvé un truc qui s'appelait informatique et chimie. J'ai dit, bon, informatique et chimie, pourquoi pas. L'important pour moi, c'était d'avoir des notions en chimie, en informatique. Et puis, j'avais un objectif qui était de rentrer dans un gros organisme de recherche qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique. Ça, c'est un gros organisme de recherche. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez en France, des organismes de recherche. Mais en gros, il y a le CNRS, il y a à peu près toutes les disciplines, il y a l'INSERM pour les sciences de la vie, il y a le CEA qui fait aussi plein de disciplines différentes. Et moi, c'était le CEA. Et ça se situe pas à Paris, ça se situe sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire dans un endroit où aujourd'hui il y a la meilleure université de France. Et c'est à 30 km de peut-être 40 km d'ici. Et quand je suis arrivé, évidemment, il fallait que je fasse mes preuves. Parce que ce gros organisme, en général, il prend des polytechniciens, des centraliens, principalement ça. Et certainement pas des filles, à l'époque. Et je me suis retrouvée, effectivement, en fait, dans un laboratoire où j'étais la seule fille. Il y avait 100 ingénieurs, techniciens, où j'étais la seule. Mais alors, on m'a dit, mais il faut faire vos preuves. Donc, venez donc au mois de juin, plutôt que de rentrer au mois de septembre, parce que l'idée, c'était de me donner une bourse pour les thèses. Il faut savoir, aujourd'hui, que si vous, un jour, vous faites, effectivement, si vous avez envie de faire de la recherche, et on va voir tout à l'heure se décliner les années d'études. Après les 5 ans, on fait une thèse qui dure 3 ans, mais on est payé. À cette époque-là, ce n'était pas encore trop l'habitude. Et donc là, ils proposaient une thèse, et pour moi, il fallait que je démontre que j'en étais capable, et donc que je rentre en juin au lieu de rentrer en septembre. Bon, mais juin, c'est juste avant les vacances, hein, pour beaucoup de gens. Et donc, je voyais tout le monde partir en vacances, y compris mon chef. Et au moment de partir en vacances, il est arrivé. Alors, l'informatique n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui. C'était avec des cartes perforées, vous voyez. Donc, les cartes perforées, c'était l'équivalent, chaque carte, c'était l'équivalent d'une ligne d'un programme. Et il arrive avec comme ça, deux boîtes comme ça, donc ça fait, je crois, 7000 cartes, ou deux fois 7000 cartes, je ne me rappelle plus. Et il me dit, ça ne marche pas, ça marchait aux États-Unis, ça ne marche pas, ça serait bien que vous fassiez marcher. Et puis, il s'en va. Qu'est-ce qui serait passé si je le mettais, dit que l'informatique, ça ressemblait à rien. Je crois que je serais parti en courant en me disant, c'est vraiment pas pour moi. Là, c'est trop compliqué, je ne vais pas m'en sortir. Je n'étais pas très ravi, bien sûr, de cette situation, mais je me suis dit, oh my God, d'abord, c'est un vieux monsieur, il ne doit rien connaître à ce truc-là, il a ramené ça des États-Unis, il y a deux solutions. Il a foutu les cartes par terre, et là, je suis mal, je ne vais jamais y arriver, aucun espoir. Ou bien, aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes machines que chez nous, et il y a peut-être quelque chose dans les premières cartes qui fait que le programme qui marchait là-bas ne marche pas ici. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu travaillé, et puis j'ai fait marcher son programme, justement, parce que c'était la deuxième solution. Et quand il est revenu, je lui ai dit, monsieur, mais ça y est, ça marche, hein, y a pas de problème. Par contre, je me suis dit, oula, il va m'exploiter, il a l'air de déjà m'exploiter. Pour ça, je dis ça, hein, je détaille un peu, parce que pour les filles, c'est important. Il ne faut pas se laisser exploiter, même si on est très timide, même si tout ça, il ne faut pas se laisser exploiter. C'est-à-dire qu'il faut voir la limite au-delà de laquelle ce n'est pas normal, ce n'est pas tolérable. Donc je lui ai dit, monsieur, la thèse que vous me proposez, moi je suis venu pour faire des expériences, de l'expérimentation, c'était un gros centre où il y avait un gros accélérateur, et je veux vraiment une thèse là-dessus et pas simplement sur ce programme. Et voilà, ça s'est bien passé. Enfin, je vous passe la suite qui a été aussi assez amusante, mais on n'a pas trop de temps. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas se mettre de barrière. Il ne faut pas se dire, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est plutôt pour les garçons, ça, c'est plutôt pour les filles. Je parle aux garçons de la même façon. Hein. Mais alors, souvent, les garçons se mettent moins de barrières que les filles. Donc je suis rentrée là, au CEA, et puis la première chose que j'ai faite, c'est de travailler sur des sujets qui reviennent aujourd'hui, c'est-à-dire la physique nucléaire, mais fondamentale, pas les réacteurs nucléaires, la physique nucléaire, les atomes. Vous savez ce que c'est les atomes? C'est formé d'un noyau avec des électrons autour.
Pardon, excuse-moi, je coupe juste. Est-ce que ça va, c'est pas trop rapide Tout le monde suit, ça va?
C'est quoi le CEA?
Le CEA, c'est le commissariat, ça s'appelle comme ça, à l'énergie atomique. Mais on ne fait pas que de l'énergie atomique, hein, on fait de la biologie, on fait des matériaux, des solides, enfin, il y a beaucoup de disciplines différentes. Il y a des gens qui travaillent sur le cancer, enfin, c'est un gros centre, 7000 personnes à peu près. Et donc, moi, j'ai travaillé sur la structure des noyaux. Parce que, par exemple, vous savez, vous connaissez le carbone. Carbone, je ne sais pas si vous savez qu'il y a 6 protons, 6 neutrons. Et est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un isotope du carbone? 12. C'est carbone 12. Parce qu'il y a 6 protons, 6 neutrons. Est-ce que vous connaissez un isotope de ce carbone 12? Non. Alors, il s'appelle le carbone 14. Le carbone 14, hein, il y a toujours 6 protons, mais il y a plus de neutrons. Et le carbone 14, vous pourriez le connaître parce que ça sert à dater. Quand on vous dit, on a trouvé cet os de dinosaure, il date de telle période, c'est qu'on a utilisé un élément radioactif, par exemple peut-être le carbone 14, pour le dater, pour savoir quelle est son origine, s'il est très très vieux, pas très très vieux, etc. Et donc, évidemment, la structure de ces deux carbones, ce n'est pas tout à fait la même. Et nous, on a fait ça pendant un certain temps. Et puis, au bout de 13 ans, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, on va faire ça et on va faire ça. Au bout de 13 ans, je me suis dit, bon, moi qui voulais aller à la frontière des connaissances, ça avance très lentement. La physique nucléaire, ça avance très lentement, même si ça redevient une discipline très importante aujourd'hui. Je vous dirai peut-être juste rapidement pourquoi. Et donc, j'ai changé de discipline. On peut changer de discipline quand on travaille dans la recherche. Je ne dis pas qu'on peut faire médecine après avoir fait de la physique nucléaire, mais quand même, on peut changer de discipline une fois qu'on a un doctorat. Et donc, après, j'ai travaillé en astrophysique. Donc, j'ai fait principalement ma carrière en astrophysique et je me suis spécialisée dans les étoiles. Est-ce que vous comprenez pourquoi je me suis spécialisée dans les étoiles? Est-ce que vous savez comment ça marche, une étoile?
Non.
Eh bien, une étoile, par exemple, je prends le Soleil, hein, c'était ma spécialité, le Soleil. Le Soleil, c'est une grosse masse de gaz. Donc, a priori, comme c'est très lourd, ça s'effondre en permanence. Mais, pour pas que ça s'effondre, il y a quelque chose qui se passe au cœur, et on a mis beaucoup de temps pour le comprendre. Il faut atteindre Marie Curie, Becquerel, tous ces gens-là, pour comprendre comment ça marche. Eh bien, au centre, il y a de la transformation de matière, de l'hydrogène en hélium. Hydrogène, hélium, ça vous dit quelque chose? Hein? L'hydrogène se transforme en hélium et produit de l'énergie. Et donc, vous voyez, c'est de la physique nucléaire. En fait, au centre des étoiles, c'est de la physique nucléaire. C'est-à-dire, c'est vraiment la transformation des noyaux d'un élément vers un autre. Et donc, j'étais tout naturellement là. Et puis, j'ai eu la chance, après, il ne faut pas le toucher, j'ai eu la chance de participer à une expérience spatiale. Vous voyez, j'aurais jamais imaginé. Voilà, de même, diriger la construction au CEA d'un instrument avec d'autres collaborations internationales, un instrument qui s'appelait Golf, sur un satellite qui s'appelle SOHO, qui a été lancé il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, mais qui est toujours en train d'observer le Soleil. Et donc, voilà, il y a des opportunités dans la vie qu'on n'imagine pas. Alors, il faut même pas que je l'approche. Qu'on n'imagine pas. Donc, j'ai travaillé avec deux agences spatiales. Alors, vous connaissez des agences spatiales, n'est-ce pas? Je rigole, parce que vous allez me dire la NASA. Vous connaissez la NASA? Oui. Mmh. Mais il y a aussi une agence spatiale européenne qui s'appelle l'ESA. European Space Agency. Donc j'ai travaillé avec ces deux agences, on a construit, on a réussi à faire marcher, parce que c'est pas toujours facile. Hein. Et puis voilà, je vais vous montrer le satellite, si je peux. Ah, il veut plus.
De ce côté. Voilà.
Voilà, c'est pas un petit satellite, vous voyez. Hein. En construction, il y avait plein d'instruments qui voulaient regarder le Soleil. Nous, on était ici, c'est notre instrument, Golf, qui, lui, se polarisait sur la partie centrale du Soleil, c'est-à-dire, justement, les réactions nucléaires, avec une technique que je ne vais pas vous décrire, mais que vous connaissez bien, en médecine. Comment est-ce qu'on fait en médecine pour regarder les organes? Foie, intestin, le cœur, sans rentrer dans le corps. Je t'entends pas forcément. C'est fort.
Radioactif.
Radioactif, de toute façon. Non, je crois pas que ce soit ça que je voulais que tu dises. On regarde les bébés aussi. Voilà. Eh bien, nous, on a fait une échographie du Soleil, tu vois. Donc, c'est rigolo, hein, comme quoi. Et entre autres, voilà, qu'est-ce qu'on regarde sur le Soleil? Juste pour vous dire, très rapidement. Il faut savoir que le Soleil, en moyenne, il est calme. Mais c'est un gaz, Il n'y a pas de bord, hein, ce n'est pas une forteresse avec des remparts. Donc, évidemment qu'il y a toujours de la matière qui s'échappe. Mais parfois, des grosses éjections, parce que là, vous voyez, c'est la taille de la Terre, donc il peut y avoir des grosses éjections de matière. Et ça, on n'aime pas trop ça quand même, parce qu'on a un système de plus en plus... lié à l'électronique, lié à l'électrostatique. Et donc, si ça arrive sur Terre, c'est pas trop sympathique. Donc, vous voyez, on suit comme ça, au cours du temps, les périodes d'activité du Soleil, et surtout, on suit en permanence, chaque jour. Hein, chaque jour, on sort des photos. Actuellement, donc là, je ne les ressors pas tout le temps, mais enfin, en gros, c'était il y a un an, mais... Si vous le regardez maintenant, ce sera à peu près pareil. Si vous regardez la surface du Soleil, en fait, on s'aperçoit qu'il y a localement comme des aimants, hein, parce qu'il y a du champ magnétique sous la surface. Et donc, on suit ça en permanence. Voilà, je m'arrête là sur mon activité, juste pour vous dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais on doit toujours, toujours, toujours essayer de se placer de façon à ce que ça soit sympa pour soi-même. Surtout pas se fermer les portes en disant ça c'est pas pour moi, parce qu'après tout si ça se trouve c'est là que vous allez beaucoup vous plaire, et en essayant d'élargir au maximum sa formation pour pouvoir rebondir s'il y a tel phénomène qui se passe ou tel autre. Donc surtout ne vous mettez pas de guerre, dites-vous que vous êtes capable de tout à partir du moment où ça va vous plaire. Parce que même si on se dit je suis pas très bonne dans telle matière, si ça vous plaît, ben vous allez être bien meilleur. Alors, ceci dit, malgré tout ce que je vous dis, malgré mon expérience, c'est vrai que les filles et les garçons n'ont pas toujours eu la même chance de faire des études. Je vais passer assez rapidement. L'accès à l'université n'était pas possible pendant très longtemps. À part quelques établissements, parce que quand on regarde Simone de Beauvoir, vous connaissez Simone de Beauvoir? Non. Marie Curie, vous connaissez Marie Curie? Marie Curie, elle est venue de Pologne pour aller à l'université. Donc, elle était dans cette période-là. Et malgré tout, elle avait le bagage qui lui a permis d'aller à l'université. Mais pour vous, par exemple, ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, et quand même depuis, on peut le noter, exactement 100 ans, hein, depuis 100 ans, les filles et les garçons ont le même programme et les mêmes chances de réussir leur baccalauréat. Et comme vous savez, et on y reviendra peut-être, bah les filles réussissent très bien leur baccalauréat, les garçons un peu moins bien. Mais c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Ils sont tout à fait capables. À l'université, bah ça a augmenté doucement. Vous voyez, en 1900, c'était 3% de filles. Et puis, en gros, depuis 1993, calme plat, 55% de filles, on retrouve toujours la même chose. Les statistiques sont faites chaque année et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les filles font plus d'études que les garçons. Ça, c'est clair. Vous voyez, ici, c'est les jeunes entre 25 et 34 ans. Et on voit que les filles, ben, elles sont plus nombreuses à l'université pour un diplôme supérieur à Bac plus 2. Si on prend la tranche 35-44 ans, on voit que c'était déjà vrai, mais ça s'amplifie. Donc les filles font des études, pas de problème. Les garçons en font aussi, hein, parce que 55 et 45, c'est pas très différent. Mais après, quand on pose la question, est-ce que vous avez déjà pensé à des métiers scientifiques et techniques ? Pour 41% des hommes, ils vont dire « Ah non, on n'y a jamais pensé ». Ça veut dire que pour 59% des garçons, peut-être qu'ils ne feront jamais de métier scientifique, mais ils y ont pensé. Tandis que pour les filles, 74% disent qu'elles n'y ont jamais pensé. Est-ce que vous avez un jour pensé faire un métier scientifique et technique ? Hein ? Oui ? Les filles ? Voilà, vous êtes dans les 74% qui n'y ont jamais pensé. Si on pose la même question pour les métiers de la protection, de la sécurité, pareil, 70% des femmes n'y ont pas pensé. Alors que tous les jours, vous entendez parler de cyberattaques, d'attaques des lycées. Enfin bon, ça peut être des jeunes hein, qui le font. Pas forcément des Russes cachés derrière un ordinateur. Mais voilà, 54% des garçons n'y ont pas pensé. Ça veut dire que presque la moitié s'est dit, bah, après tout, pourquoi pas, s'il y a des places. Mais pour les filles, 70% n'y ont pas pensé. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que, voilà, c'est ce que j'appelle se fermer des portes. Se dire, c'est pas pour moi, donc je vais pas choisir les spécialités qui risquent de m'emmener vers ces métiers. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Hop, hop, hop. Faut pas que je l'approche. Alors, on en est là. Par contre, si on parle du soin, 52% seulement des femmes n'y ont pas pensé.
Tout le monde comprend le soin? Oui? Non. Alors, est-ce que quelqu'un comprend le soin? Qu'est-ce que c'est le soin?
Le soin, ça va être médecine, ça va être infirmière, ça va être aide à domicile, ça va être tous ces métiers-là.
La santé.
La santé en général. Hein? Une fille sur deux se dit, peut-être que oui, je pourrais faire quelque chose dans ce domaine. Les garçons, ils pensent moins. Mais par contre, la plupart des filles ne pensent pas à faire des métiers scientifiques et techniques. Vous pourrez me dire, bah oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, bien sûr. Alors, il faut savoir quand même que tous les métiers scientifiques, maintenant, et techniques, sont mixtes. C'est-à-dire, il y a des femmes et des hommes. Peut-être pas le même nombre, mais il y a des femmes et des hommes dans tous ces métiers. Et que surtout, il y a beaucoup de tranches différentes dans ces métiers. Alors, je vais vous les citer très grossièrement pour vous donner une idée qu'il y a beaucoup, beaucoup de domaines dans lesquels on peut trouver un travail. Que ce soit dans la télécommunication, dans l'électronique, l'informatique. Vous allez me dire, c'est plus les garçons qui font ça. Peut-être. Dans la parfumerie, le cosmétique, les arômes. Alors là, vous allez me dire, mais c'est plus les filles. Mais vous savez, au quotidien, entre ces deux métiers, il n'y a pas forcément beaucoup de différences. Par exemple, dans les grandes figures qui peut-être seront dans votre établissement l'année prochaine, il y a une fille qui fait de l'électronique. En fait, elle fait des circuits électroniques. Et je peux, peut-être qu'elle viendra vous voir un jour, je peux vous garantir qu'elle, elle prend vraiment beaucoup de plaisir parce qu'elle rencontre des tas de communautés différentes. Vous en avez dans les voitures, vous en avez dans les grands centres de recherche, vous en avez partout de l'électronique. Et donc, elle travaille avec des tas de gens et de par le monde, etc. À droite, à gauche, elle voyage. Et ça lui plaît beaucoup. Vous avez tout ce qui concerne les mathématiques et l'application au numérique, avec la compression des données, avec la fabrication de tout un tas d'algorithmes. Ça, quand même, il va y avoir beaucoup, il y a déjà, mais il y a beaucoup de métiers qui se développent autour des mathématiques pratiques. Ça peut concerner les jeux vidéo, ça concerne le développement de l'IA. Alors, je m'arrête juste sur l'intelligence artificielle. Pour vous poser une question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire que le mot biaisé? Quelque chose est biaisé. Vous savez ce que ça veut dire? Si on se rend compte que les jeunes ne savent pas ce mot-là. Et on ne peut pas comprendre l'intelligence artificielle si on ne connaît pas le mot biaisé. Vous connaissez ce mot-là? Par exemple? Est-ce que tu connais ce mot-là? Oui, non? C'est pas grave, hein, je te dis. Si je pose la question, c'est parce que tous les jeunes que je rencontre ne la connaissent pas. Non, t'inquiète pas, pas de problème là-dessus. Mais c'est très important pour l'intelligence artificielle et c'est très important dans la mixité des métiers. L'intelligence artificielle.
Une proposition.
L'intelligence artificielle, je fais juste un petit encart sur l'intelligence artificielle. Vous en entendez parler, hein? Tous les jeunes entendent parler de l'intelligence artificielle. Et c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est comme intelligence. Vous êtes intelligent, c'est-à-dire que vous faites des relations entre les choses que vous connaissez, ça je connais. Donc, paf, ça y est, immédiatement, ça vous fait comprendre des choses. Parce que vous avez des connaissances. L'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose, sauf que ce n'est pas un être humain qui fait ça, c'est une machine à partir de données. La machine mange des données, de même que vous mangez des occasions de tout un tas de choses, elle mange des données, et à partir de ces données, elle restitue quelque chose. Quand on dit que les machines sont émotives, par exemple, simplement qu'on leur a expliqué que quand on sourit, quand on fait cette tête-là, c'est que pas très clair, etc., etc. Puis elles répètent ce qu'on leur a appris. Hein. C'est un apprentissage, mais à partir de données. Et si ces données ne représentent pas la réalité de la question que vous vous posez, elle ne va pas savoir répondre correctement. Par exemple, si vous décidez de faire un stage, l'année, je ne sais pas si vous faites des stages à la fin de la seconde, normalement, il ne devrait rien avoir. C'est pas facile de trouver un stage. Alors vous envoyez des CV. Si vous envoyez des CV dans une grosse boîte, si évidemment vous envoyez des CV chez le commerçant d'à côté, bon, il va lire votre CV. Mais si vous l'envoyez dans une grosse boîte, je sais pas moi, je prends Orange par exemple, c'est pas des gens qui vont lire les CV en disant « Oh, une petite deux secondes qui arrive, mais c'est super, on va la prendre, etc. etc. » Ça va être des logiciels, ça va être pareil pour Parcoursup, etc., etc. Mais si la base de données ne représente pas votre communauté, c'est-à-dire des garçons et des filles, et que par exemple dans cette base de données, imaginons, c'est arrivé chez Orange, pas pour des stages de seconde, mais c'est arrivé pour de l'emploi, tout simplement, et que s'ils avaient dans la base de données que des garçons, eh bien, ils vont dire... Ah non, ça ne correspond pas aux critères. Donc ça s'appelle une information biaisée. C'est-à-dire que si les données qui sont utilisées par les ordinateurs ne sont pas équilibrées, par exemple en genre, masculin, féminin, ou en couleur de peau, ou en ce que vous voulez, bah, il va y avoir des biais. Hein? C'est ce qu'on appelle des biais. Et pour rectifier ces biais, ben, il faut forcément une grande diversité de personnes qui travaillent sur ce sujet et qui sont attentifs à ça. Je suis sûr que si vous êtes à l'origine de ce logiciel et vous voyez qu'il y a que des garçons qui sortent, tu vas dire, mais il y a un truc qui ne va pas là dans ce programme. C'est pas possible, pourquoi il y a que des garçons alors qu'on a 70% de candidatures de filles? Tu vois, il y a des biais. Et dans toute l'intelligence artificielle, actuellement, il y a beaucoup de biais. Et c'est une des raisons pour laquelle on parle de l'égalité de droits des filles et des garçons, c'est que comme il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer avec l'intelligence artificielle, si on ne corrige pas ces biais, et s'il n'y a pas des filles pour aider à les corriger, bah, ça va continuer pendant longtemps. Bref, tout ça pour faire un petit coucou là à l'IA, qui va évidemment prendre beaucoup d'emplois. Vous avez tous ce qui concerne la météorologie, la climatologie, le recyclage des matériaux de toutes sortes. Vous avez tout ce qui concerne la mécanique, l'électricité, le génie civil, le nucléaire, l'énergie. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique?
Oui.
N'est-ce pas? Oui. Bah, qui c'est qui va s'attaquer à ces problèmes? C'est les jeunes de votre génération. C'est pas moi qui vais changer le monde dans le réchauffement climatique. Ça va être un long processus, et peut-être que vous vous rendez compte que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait, en fait. Donc, évidemment qu'il y a des métiers qui sont importants, et que les garçons comme les filles ont de bonnes raisons d'être intéressés par ces métiers. Vous avez toutes les relations entre la physique et la médecine. Parce que je parlais d'intelligence artificielle, une des choses qui devrait se développer de façon assez positive, c'est quand même... la connaissance du corps humain avec tout un tas d'indicateurs qu'on n'a pas actuellement. Parce qu'actuellement, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Le médecin, il vous reçoit 15 minutes. Il ne peut pas tout savoir de vous. Par contre, je pense que dans, je dis 20 ans, mais à mon avis, ça sera moins, vous aurez tous une montre connectée avec tout un tas d'indicateurs déjà que vous-même, vous allez suivre au quotidien. Vos battements cardiaques, vos taux de glucose, tout un tas de choses que vous allez avoir. Et ça, ça va être géré par l'intelligence artificielle. Alors, je vous donne un exemple vrai qui s'est produit il y a 15 jours. Une femme de 34 ans qui témoigne. Elle avait déjà cette montre. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Elle avait déjà cette montre. Et puis un jour, elle ne se sentait pas très bien. Puis il y a la montre qui lui fait ça va pas. Elle se met à sonner, elle sonne. Pour sonner et pour dire ça va pas, c'est qu'elle a intégré plein de données et qu'elle sait que les données qui sont là ne sont pas normales. Hein. Elle dit bon, je sais pas, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai que je ne me sens pas très bien, je vais faire une sieste. Elle fait une sieste. Et puis, de nouveau, la montre se met à lui dire que non, sa fréquence cardiaque est tout à fait anormale. Elle se dit, bon, il faut quand même que j'aille à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital, et l'hôpital lui a dit, si vous n'étiez pas venu, vous seriez morte demain. Parce que cette pauvre dame, elle faisait en fait une hémorragie interne, c'est-à-dire qu'elle perdait du sang, mais ça ne se voyait pas. Et elle-même ne le voyait pas. Et c'était un stade assez ultime, et elle a été sauvée grâce à ça. Donc vous allez baigner dans l'intelligence artificielle et avec ses progrès médicaux. Mais ça, c'est les physiciens qui le font, hein, avec les médecins et avec les gens qui font de l'informatique. Donc vous voyez, ces métiers, on peut se dire, oh, moi j'aime le soin, mais par contre j'aime pas la physique, par exemple. Mais en fait, c'est pas si différent. Parce que ça aide à comprendre comment tout ça fonctionne. Et puis, il y a des techniques que les uns connaissent, que les autres ne connaissent pas, etc., etc. Donc, bon, l'astrophysique, j'en ai parlé. Il y a la criminologie aussi. De plus en plus, on résout des énigmes parce que, justement, on connaît mieux la biologie, on connaît mieux la physique, etc. Vous avez les mécaniciens, les chercheurs en métallurgie. Bon, ça, on pourrait le remettre avec ça. Vous avez la microbiologie, c'est-à-dire, en fait... comment on vous empère maintenant en faisant un minimum d'intervention avec des risques importants. Bref, de très nombreux métiers qui pourraient vous intéresser. Tu veux pas. Alors, quelles sont les études pour faire ce genre de métier? Il faut voir que les études peuvent être longues ou courtes. Ça va dépendre de vous. Et là encore, c'est des métiers où on peut accéder à des niveaux d'études différents. Hein? Si vous ne voulez pas faire des études longues, ben vous prenez des formations courtes. Par exemple, pour devenir technicien, technicienne, c'est 2-3 ans. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de filles, par exemple, mais de garçons aussi, qui au bout de 2-3 ans se disent... mais finalement, ça m'intéresse, et qui vont continuer pour atteindre le niveau ingénieur. Mais en tout cas, vous pouvez faire ça. En France, il y a les BTS, les IUT, et c'est des très très bonnes formations. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que c'est par défaut qu'on va là. Non, on s'occupe vraiment bien des étudiants dans ces formations-là, et surtout, on fait beaucoup de pratiques, ce qui quand même est très utile. Vous avez le métier d'enseignant, vous voyez, c'est le même niveau d'études, Bac plus 5. Vous avez le niveau des chercheurs, donc je l'avais déjà commenté, donc Bac plus 5, plus 3 ans pour faire une thèse, mais rémunéré. Donc c'est un peu l'équivalent, finalement. Et puis vous avez la médecine, Bac plus 9 ou Bac plus 12. Donc là, il faut vraiment, qui démarre par un concours, donc là, il faut vraiment être très motivé dès le départ. Tandis que dans les autres... bah, vous avez différents niveaux de taille d'école, des très exigeantes, je dirais, des moins exigeantes. Donc quand même, on peut trouver sa place, et on peut trouver sa place sans faire des études qui soient coûteuses. Donc, en gros, pour résumer ça, je vous dis, les mathématiques, les sciences et les technologies conduisent à des métiers d'avenir bien rémunérés. Et les jeunes peuvent contribuer à changer le monde en s'orientant vers ces métiers qui vont aider à résoudre des problèmes actuels. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien avoir dans la tête, c'est quand même des métiers qui sont là pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui nous préoccupent. Et ce que je recommande, c'est vraiment de...
capricieux.
Qu'est-ce qu'on fait là ? De choisir un parcours qui ne vous ferme pas de porte. Et alors, malheureusement, le système scolaire actuel vous demande déjà de vous déterminer en première, donc cette année, en fait, pour l'année prochaine. Alors que, ben voilà, à part vous qui voulez être architecte d'intérieur, pour beaucoup, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Donc ne vous fermez pas de porte, ne vous dites pas c'est pas pour moi, ou ne vous dites pas par défaut je vais prendre ce truc parce que ça a l'air sympa, parce que les conséquences, évidemment, elles existent. Non. Voilà. Alors, par rapport aux autres pays, c'est toujours intéressant de se situer par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Suède, par rapport à l'Italie. Vous voyez que la France est assez bien placée parce que dans les études après le bac, bah finalement, beaucoup de filles, par rapport, mettons, compagnons, par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Italie, vous voyez, il y a beaucoup de filles qui font des études supérieures. 54%. Et il y a beaucoup de garçons qui en font aussi, 47%. Donc, faut pas se fermer de porte, parce que quand vous allez en faire, ce serait dommage que d'un seul coup, vous avez une lumière qui s'allume, puis dire, ah ben zut, j'ai pas ce qu'il faut pour. Alors, le choix des filles, le choix des garçons en classe de terminale. Voilà, c'est juste pour vous montrer très vite, mais je pense que c'est déjà loin pour vous, la terminale. Par exemple, mathématiques, sciences de l'ingénieur, il n'y a pas beaucoup de filles. Par contre, il y a beaucoup de filles qui vont vers humanité, littérature, philosophie. Vous êtes prof de français, donc je ne veux pas dire de mal de ces domaines-là. Mais 76% ou 86% de filles en littérature et philosophie, c'est quand même dangereux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le lire. J'aime beaucoup la littérature, etc. La philosophie, c'est superbe. Mais il faut après réfléchir, est-ce que ça va m'amener à un métier qui va me permettre, pendant 40 ans, de gagner ma vie ? C'est pas toujours clair. Hein ? Les garçons ne vont pas faire ces choix. Alors, est-ce qu'ils sont plus stratégiques ? Ben oui, en moyenne, ils le sont. Alors, une autre petite remarque que je voudrais faire, sans vous abreuver de trop de chiffres. Les filles vont aller plutôt vers les sciences de la nature et de la vie que vers les sciences fondamentales. Vous voyez, la différence, elle est énorme. 64% de filles en sciences de la vie, 28% en sciences fondamentales. Ben franchement, au quotidien, et le nombre d'emplois qu'il y a dans un domaine et l'autre, sera peut-être à discuter. Plus grave encore, dans les IUT et dans les BTS, les filles... Alors, il y a les garçons peut-être aussi ? Non, il n'y a pas les garçons. Les garçons vont aller plutôt vers des IUT de production ou des BTS industriels. Mais les filles, elles vont aller plutôt vers le tertiaire. C'est quoi le tertiaire ? Ben, finalement, c'est voilà, être assis devant un ordinateur, mais dont on ne fait pas le programme, pour traiter des données au quotidien. Pendant 40 ans, ça peut lasser. C'est dommage, parce que dans le secteur de la production, elles auraient beaucoup plus d'opportunités d'avoir un métier varié. C'est vrai aussi dans le milieu industriel. Elles auraient beaucoup plus d'opportunités dans le milieu industriel, surtout qu'on les attend, qu'on souhaite qu'elles viennent, mais elles ne sont que 22%. Alors ça a des conséquences. On va sauter ça, on va sauter ça. Voilà, on va juste prendre celui-là, par exemple. Donc, 84% de filles ont leur bac, mais il n'y en a que 20 à 30% dans les écoles d'ingénieurs. Alors qu'il manque chaque année 10 000 ingénieurs à pourvoir. Il y a 55 000 ingénieurs à pourvoir, et on manque de 10 000 ingénieurs. Et si vous êtes ingénieur et que vous présentez quelque part, on va vous dire, mais avec plaisir, vous êtes une fille, en plus, venez donc. On est en train d'essayer de remettre en route l'industrie en France. Donc il y aura des postes. N'hésitez pas à y aller. Et donc les conséquences, quand même, je veux m'y arrêter. c'est pas ça que je voulais montrer, parce que je pense que le temps s'écoule. Allez, on va sauter tout ça. On va faire celui-là. Hop. J'en profite pour vous faire remarquer qu'en informatique, vous voyez, en 1989, il y avait 14%, et qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs écrit dans votre propre lycée, aujourd'hui, ça n'a pas bougé, voire ça a diminué. Alors, excusez-moi les garçons, juste un petit couplet sur les filles. Les garçons, vous, vous êtes stratégiques, vous vous dites, oh, on va toujours essayer, on verra bien. Et puis, vous avancez comme ça. Les filles, non. Jusqu'alors, mais ça va changer, parce qu'on ne vous racontait pas tout ça il y a quelques années. Maintenant, je suis venu pour vous le raconter, donc retenez-le bien. La conséquence de tout ça, c'est que les filles, pendant longtemps, et on espère que ça va changer, les filles, elles se sont cantonnées à dire non pas si, oui peut-être ça, et le résultat, même en faisant plus d'études que les garçons, 50% des filles, c'est-à-dire une sur deux, hein, vous êtes, je sais pas, une quinzaine de filles, ben 7 sur 15, vont se déployer seulement sur ce qu'on appelle 12 familles professionnelles sur 87. C'est-à-dire tous les métiers, on les range dans des familles. Et il y en a 87 en tout. Et les filles, la moitié d'entre elles vont se déployer seulement sur 12. Et les 12, elles sont listées là. Donc il y a enseignant, 66% de femmes. Là, je suis contente, je suis un professeur homme. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de femmes dans l'enseignement. Surtout dans les petits niveaux, collège et primaire. Mais à part enseignant, qui est probablement dans cette liste est le métier le plus intéressant, vous voyez, 71% en agent d'entretien, vendeur, métier qui va disparaître, hein. Vous voyez toutes les petites boutiques qui ferment. Employé administratif, aide à domicile, 97% de femmes. Aide-soignante, 90% de femmes. 88% chez les infirmières sages-femmes. 97% chez les secrétaires, ça c'est ce qu'on appelle le tertiaire. Hein. Assistante maternelle, employé administratif d'entreprise, cadre administratif, employé de comptabilité, voilà. Une fille sur deux se retrouve là. Pas forcément par choix. C'est pas qu'elles l'ont forcément choisi. C'est qu'elles vont subir. Parce que si elles ont fait des études, même longues, puisque vous voyez, les filles font des études longues, mais qu'elles ne trouvent pas de travail à la fin, qu'elles n'ont pas choisi en se disant « ça, ça me plaît, mais en plus, j'ai bon espoir qu'il y ait un métier, un travail qui va pouvoir bénéficier de mes compétences ben », voilà, elles se retrouvent déclassées souvent. Et c'est dommage. Donc surtout dans vos choix pour l'année prochaine, les trois spécialités, ne négligez pas des matières qu'on retrouve dans plein de métiers. Ça c'est pour les filles comme pour les garçons. Donc si ça vous interpelle, sachez que nous, notre association qui s'appelle Femmes et Sciences, mais on s'adresse aux garçons aussi, hein, vous inquiétez pas, on peut renseigner tout un chacun, eh bien on a publié des choses qui sont là, que vous trouverez dans votre, c'est dans votre à côté là, et surtout vous pouvez aller sur notre site. Notre site c'est www.femmesetsciences.fr et vous trouvez tout ça sous forme PDF que vous pouvez télécharger. Donc parmi les choses que vous trouvez, ça c'est plutôt pour les profs, c'est peut-être pas ce qui vous intéressera le plus. Il y a des témoignages filmés sur YouTube, garçons et filles d'ailleurs, il y a Cédric Villani, que vous connaissez probablement pas, mais qui est un mathématicien qui parle très bien des maths. Il y a des filles, par exemple celle-ci, elle était ingénieure. Elle, son métier, alors je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais son métier, c'était de choisir la couleur des voitures. C'est-à-dire, elle devait trouver des couleurs qui puissent plaire au point qu'on vende beaucoup des voitures de cette couleur. Et ça lui plaisait beaucoup. Voilà, il y a des métiers très différents. Et donc, notre exposition XXL, ça, c'est des femmes qui sont photographiées un peu partout en France. Vous en trouvez peut-être 96 portraits et surtout 96 métiers, hein, parce que vous prenez la fille, mais vous regardez juste le métier, si vous êtes un garçon, et qui vous montrent un peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel genre d'études, ce qui les a bloqués quand ils étaient jeunes ou pas, etc. Et donc cette exposition, on peut l'amener dans votre établissement l'année prochaine si on veut. On en discute avec votre prof. Vous trouverez aussi des femmes scientifiques, parce que j'ai vu que vous aviez mis pas mal de portraits de femmes. Là, c'est des femmes scientifiques. Alors, Marie Curie, par exemple, bien sûr, elle est dans ce livre, mais aussi Françoise Barrésine aussi. Vous savez qui c'est, Françoise Barrésine aussi ?
Elle sera au CDI, hein, si vous voulez le regarder après.
Françoise Barrésine aussi, c'est une femme qui est toujours vivante, hein, et qui a découvert le virus du sida. Le sida, quand même, vous avez tous entendu parler du sida, c'est quand même une problématique qui est encore d'actualité. Eh bien, il faut savoir que celle qui a découvert avec son équipe, hein, avec les gens de son équipe, eh bien, voilà, elle a eu le prix Nobel pour ça. C'est une Française qui travaillait à l'Institut Pasteur. Est-ce que vous connaissez Claudie Aigneret ? Claudie Aigneret, c'est la première femme astronaute française. Elle a voyagé dans l'espace avec la NASA et aussi avec les Russes. Donc vous voyez, elle est devenue ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement national et supérieur. Et puis après, elle s'est occupée des musées des sciences. Vous connaissez des musées des sciences ? Vous êtes déjà allé à la Villette ?
Oui.
À la Villette, par exemple, il y a maintenant une exposition sur le spatial. Il y a aussi des choses sur le cerveau qui sont très bien faites, moi, je trouve.
On est allé avec la classe, vous vous souvenez ou pas ?
Oui.
Le musée qu'on a visité en octobre. Vous êtes allé ? Les autres ?
Voilà, donc, pour faire des choix, il faut se cultiver. Parce que si on regarde toujours les mêmes choses, c'est toujours pareil. L'intelligence, elle se nourrit. C'est pas que l'intelligence artificielle qui se nourrit de données, vous aussi ? Hein, tout ce que vous allez aller picorer à droite et à gauche va vous nourrir, va vous aider pour la réflexion. Donc voilà, les musées, les documentaires, les magazines, ça existe. Des choses sur YouTube aussi, ça existe. Donc allez picorer, peut-être ça va vous intéresser, peut-être ça va vous plaire, peut-être ça va pas vous plaire. Mais en tout cas, au moins, ça va vous ouvrir d'autres dimensions que celles qui sont votre univers proche.